On est Laura Martel, 8h40 en temps universel.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la Libre Antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. C'est l'occasion, vous le savez, de nous sensibiliser sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment, selon vous, sur notre antenne, des sujets dont on n'a pas eu l'occasion de parler ensemble cette semaine. En tout cas, toute l'actualité nous intéresse. Vous êtes en France, à l'étranger. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos réactions sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. D'ailleurs, sur cette page, vous pouvez débattre entre vous, évidemment, en respectant la courtoisie, parce que parfois sur les réseaux sociaux, vous avez tendance un peu à vous emporter. Bobaye est avec nous, et Bobaye va lancer le débat ce matin concernant les récents propos de Willy Sagnol, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, sur le joueur typique africain. Bonjour Bobaye.
Bonjour Juan Gomez.
Alors, après avoir entendu Willy Sagnol, vous dénoncez des propos néocolonialistes.
C'est cela que j'ai dit. Pour moi, ce discours-là, c'est le discours qui a été utilisé dans les années 14-18, 39-45, durant les deux conflits mondiaux. Et ce discours-là n'a pas lieu d'être au jour d'aujourd'hui.
Alors, il a dit, je reprends ses propos, hein, pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. On resitue le contexte. Hein. Il était face à des lecteurs du quotidien Sud-Ouest, un quotidien régional en France. Et il dit, l'avantage du joueur typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend. C'est un joueur prêt au combat, généralement. Quand on peut qualifier de puissance sur... le terrain. Mais le foot, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline. Et puis, un peu plus tard, il parle des Nordiques. Et il dit, les Nordiques, eh bien, c'est bien. C'est bien, les Nordiques. Bonne mentalité. Voilà, pour resituer le contexte. Donc, vous avez, pour vous, c'est clairement une façon implicite de remettre en cause l'intelligence, la culture tactique des joueurs africains.
Tout à fait, monsieur Gomez. Parce que si on fait l'histoire du football, il est nullement besoin de repartir à l'époque du grand Salif Keïta. Et au jour d'aujourd'hui, on voit bien Samuel Eto'o. Je prends que deux exemples. Mmh. Samuel Eto'o et Didier Drogba. Alors qu'on me dise que ces deux joueurs-là, ils coûtent moins cher. Qu'on me dise que ces joueurs-là, ils sont pas intelligents. Qu'on me dise qu'ils sont pas techniques. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les joueurs africains sont techniques. Ils sont intelligents. Maintenant, on les paye pas cher, oui. S'il y a des comportements comme ça, il y a des discriminations comme ça dans les clubs. Mais c'est pas parce que les joueurs africains ne valent rien. Ouais. Samuel Eto'o est l'un des joueurs le mieux payé au monde.
Enfin, en l'occurrence, africain. Il ne parlait pas des joueurs africains sur l'ensemble de la planète. Lui s'intéressait plutôt aux joueurs africains évoluant dans le championnat français et principalement en Ligue 1. Est-ce que les propos de Willy Sagnol vous ont fait rappeler ceux tenus il y a quelques années lors d'une réunion
par Laurent Blanc.
Voilà, effectivement.
Oui. Par Laurent Blanc. Eh bien, c'est pour cela, monsieur Gomez, que je demande à ce que monsieur Sagnol soit condamné devant les tribunaux, ne serait-ce que symboliquement. Parce que souvenons-nous, quand monsieur Mbalambala Dieudonné, qui est un humoriste, avait fait une blague sur les Juifs, on a vu ce qui s'est passé.
Ouais. Hier,
a été traîné devant les tribunaux.
Willy Sagnol s'est excusé hier. Enfin, il ne s'est pas excusé. Soyons précis.
Non.
Il ne s'est pas excusé. Il s'est dit désolé d'avoir pu choquer par des propos tenus. Et lui, en tout cas, récuse tout racisme. Hein.
Oh non, monsieur Gomez, cette désolation de M. Sagnol, c'est ce qu'on appelle en Afrique les larmes du crocodile. Ce ne sont pas des excuses. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, nous, on demande peut-être des excuses publiques. Mais là, ce qui
Alors,
est bizarre,
excusez-moi.
C'est que...
Oui. Bouba, il y a du monde sur ce sujet. Ne raccrochez pas. J'aimerais qu'on accueille Didier, qui nous appelle de Los Angeles. Bonjour Didier.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous les Africains.
Vous n'êtes pas convaincu par les excuses de Willy Sagnol?
Je ne suis pas convaincu, comme venait le dire l'ami qui m'a précédé, Monsieur Rouen. Vous savez, cette façon de faire et de voir les choses, c'est juste pour dénigrer les joueurs africains. Vous savez, quand Monsieur Sagnol dit « Désolé si mes propos ont choqué les gens », ça ce ne sont pas des excuses, ne vous en faites pas, ça ce sont des jeux de mots. Désolé, que cela signifie? Et en plus, d'abord, je ne suis pas convaincu que les gars s'est excusé, parce que il dit « J'ai été soutenu par beaucoup de gens ». Que cela signifie? Signifie que ses propos n'étaient pas aussi mauvais que ça.
Ouais. D'ailleurs, juste après la conférence des presse de Willy Sagnol hier, le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, a dit, après le mea culpa de Willy Sagnol, cette affaire est close.
Non, ça c'est dit n'importe quoi, M. Rouen. Parce que les mea culpa, moi, je ne les ai pas vus. Et en plus, M. Rouen, entre nous soit dit, aujourd'hui, s'il pense que les joueurs africains ne sont pas intelligents, ne sont pas tactiques, comme il a dit, prenez au moins, regardez-moi, M. Rouen, l'équipe nationale de France, et mettez-moi de côté tous les joueurs d'origine africaine. Que deviendrait l'équipe de France aujourd'hui?
Ouais. Que pensez-vous tous les deux, Didier à Los Angeles et Boubaï en région parisienne, lorsque Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, dans une tribune publiée dans le quotidien français Le Monde, appelle les joueurs africains à boycotter la Ligue 1? Didier.
Mais écoute, moi je crois que je serais content si une fois, au moins une fois qu'il les fasse, et nous verrons les résultats.
Ouais. Boubaï.
Vous savez, je vais vous dire une chose.
Attendez, Boubaï à Paris sur cet appel à boycotter au moins une journée la Ligue 1.
Oui, je vais dans ce sens-là, Juan Gomez. Moi, je dirais que ne serait-ce que pour leur honneur, que les joueurs africains qui évoluent en Ligue 1 française boycottent. Ne serait-ce qu'une seule journée de la Ligue 1, par exemple ce week-end qui arrive.
D'accord.
Et je pense que ça sera mieux.
Bon, on va donner la parole à d'autres auditeurs sur d'autres sujets. Merci à tous les deux. Boubaï, qui est de la région parisienne, et surtout Didier, hein, qui nous appelait de Los Angeles. Bonne journée à tous les deux. 9h47 à Paris. D'accord. On va parler de la pénurie de pétrole, au Tchad. Hassan, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Bienvenue, on a eu l'occasion déjà avec d'autres auditeurs les semaines précédentes de parler de cette pénurie qui dure depuis maintenant quasiment un mois. Vous souhaitiez revenir sur ce sujet puisque cette semaine, lundi pour être précis, dans le sud du pays, à Doba, les habitants et les associations de consommateurs ont organisé une journée sans voiture pour protester justement contre les pénuries de carburant qui paralysent les activités de la ville. D'ailleurs, il semblerait que la manifestation a été suivie à 75%. On voyait quasiment aucune voiture lundi dans les rues de Doba. Et vous comprenez, hein, vous aussi, vous faites partie de ces consommateurs qui n'en peuvent plus de ne plus trouver d'essence dans les stations-service.
Oui, Juan, effectivement, j'ai remarqué, j'ai moi-même fait le queue, comme on l'a dit ici, mais j'ai aucune information par rapport à ce qui s'est passé au Doba.
Oui.
Ça, c'est vous qui le dites. Maintenant, ici, en Jamana, c'est vrai, il y a eu une pénurie, il y a eu un rétablissement de la situation, mais ça a repris encore. Donc, pour moi, il y a vraiment cette pénurie, mais il faut maintenant situer les responsabilités à partir de la production jusqu'au transport, jusqu'à la distribution. Il faut que les uns et les autres vraiment soient clairs dans ce qu'ils font.
La pénurie, Hassan, pour rappeler à nos auditeurs, elle était prévisible hein, puisqu'elle est liée à l'arrêt de la production de la raffinerie de Jarmaya qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de la capitale. L'arrêt de cette raffinerie permet de réviser les installations, donc c'était une fermeture pour maintenance qui était prévue. Le problème, c'est que nombreux sont ceux qui accusent les opérateurs économiques de provoquer ou d'organiser la pénurie pour faire grimper les prix.
Effectivement, moi je crois que le grossiste, le distributeur détaillant, le responsable au niveau de la raffinerie, chacun a une part de responsabilité. Il faut que cette part de responsabilité soit assumée et il faut que les responsables soient tenus pour responsables. Parce que nous ne comprenons pas pour un État comme le Tchad, État producteur du pétrole, nous soyons en pénurie du carburant parce que bon, il y a quelques personnes heureuses qui sont dans les circuits et qui veulent faire de ça je ne sais pas quoi, enfin. Donc ça, c'est vraiment une situation qui était incompréhensible.
Oui.
À même moment que nous dénonçons cela, nous dénonçons aussi ceux qui essaient de faire de cela une récupération politique pour des dessins que nous ne comprenons pas. Effectivement, il y a cette pénurie. Maintenant, au niveau de la pénurie, au niveau de la raffinerie, les responsables doivent être tenus pour responsables et écartés de leurs postes de responsabilité s'il est nécessaire.
D'accord.
Parce
donc,
que nous,
si je comprends
nous
bien,
ne devons pas souffrir de ça.
Vous ne devez pas souffrir de la pénurie de carburant. En tout cas, voilà, il faut situer les responsabilités et que des sanctions tombent. C'est ce que vous réclamez. Merci de ce témoignage. Bonne journée à N'Djamena. Philippe nous appelle de la région parisienne. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Juan.
Vous profitez de la libre antenne pour nous interpeller sur la disparition au Mexique de 43 étudiants. Ils sont portés disparus depuis le 26 septembre. Et c'est vrai que cette affaire suscite vraiment l'indignation au Mexique. Et vous êtes, vous, sensible justement au sort de ces étudiants?
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de connaissances dans la communauté mexicaine, hein, et particulièrement ici en région parisienne, en France. Donc effectivement, 43 élèves instituteurs hein, de l'école normale rurale d'Iguala. C'est dans l'état de Guerrero que pas mal de gens connaissent à travers le monde, puisqu'il y a la station balnéaire d'Acapulco, hein, mm-hmm. qui fait partie de cet état-là. Écoutez, c'est très grave parce qu'il y a une impunité depuis de très longues années au Mexique. Il y a beaucoup d'affaires comme ça. Actuellement,
faut dire qu'ils ont été attaqués, enfin que ces élèves ont été attaqués par des policiers, par des membres, dit-on, d'un cartel de narcotrafiquants, et que c'est le maire de la ville qui aurait demandé hein, aux policiers d'attaquer cette école normale pour empêcher les étudiants qui s'apprêtaient, dit-on, à perturber une cérémonie organisée par l'épouse du maire, laquelle épouse est soupçonné d'appartenir à un cartel de narcotrafiquants.
Alors moi, les informations que j'ai, c'est que ces étudiants revenaient d'une collecte de fonds pour faire fonctionner l'école normale rurale. Il y a eu une attaque sur le bus qui les transportait. Mmh. Il y a eu 3 morts parmi les étudiants déjà. Il y a eu 3 autres morts de personnes qui n'avaient rien à voir avec les étudiants. Et en fait, le narcotrafic, il a bon dos hein, dans cette histoire. En réalité, il y a une interpénétration du narcotrafic et du monde politicien au Mexique qui est très corrompu, très très corrompu. Et moi, je pense effectivement que ces gens, par leur engagement social, politique, professionnel, sont des gêneurs, quoi. Et on les a fait disparaître. Actuellement, on ne sait pas où ils sont. Hein.
On ne sait pas où ils sont. En tout cas, on a découvert plusieurs fosses clandestines, des dizaines de fosses clandestines, ouais. Contenant une quarantaine de corps non identifiés. Donc on ne sait pas s'il s'agit des corps de ces étudiants. En tout cas, mercredi, avant-hier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Mexico pour exiger du gouvernement un dénouement rapide. Merci Philippe de nous avoir appelé. Bonne journée en région parisienne. Bruno, bonjour. Allô, allô, Bruno. Bruno. Bon.
Oui, allô.
Voilà, soyez près du téléphone quand même pour passer à l'antenne puisque vous souhaitez vous exprimer. Vous êtes là? Bon, on a un problème avec Bruno. Qui avons-nous? 33 9 693 693 70. Mamadou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous nos auditeurs.
Vous êtes à Koudougou, au Burkina Faso, comme des centaines et des centaines d'auditeurs cette semaine. Vous nous avez contactés pour commenter l'actualité dans votre pays. Et vous insistez, vous, sur le délai fixé par l'Union africaine, cet ultimatum de 2 semaines accordé donc au lieutenant-colonel Zida pour préparer la transition civile, transmettre le pouvoir aux civils. Et cet ultimatum, vous dites, c'est trop juste, le délai est trop court.
Oui, Juan, oui, merci. Je suis officier même déconcerté du fait que l'Union africaine ait fixé ce délai de 2 semaines. J'aimerais demander à l'Union africaine et à toute la CIAO où était cette Union africaine lorsque l'ex-président développait cette vérité de tripatria de l'article 37. Où était cette même Union africaine lorsque les membres de l'opposition et tous les peuples burkinabés dans son ensemble battaient le macadam pour demander à ce que l'article 37 ne soit pas touché.
Ouais.
Alors, ce qui s'est passé le 30 octobre, ça a été donc un soulèvement populaire. Le peuple burkinabé a décidé de prendre son destin en main. Certes, la transition ne peut pas être militaire, elle sera civile, ok, mais on ne peut pas fixer un délai, imposer un délai de 2 semaines sous peine des sanctions.
Ouais. Donc sanctions... ça signifie, Mamadou, vous êtes d'accord avec le lieutenant-colonel Zida qui a dit hier devant les journalistes qu'il n'était pas tenu par le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine pour rendre le pouvoir aux civils. Il a dit, le délai qu'on nous impose, ce n'est véritablement pas une préoccupation pour nous.
Naturellement, je suis tout à fait d'accord avec le lieutenant-colonel Zida, parce que j'estime qu'en l'état actuel des choses, il ne faut pas brusquer, donc cette transition. Il faut laisser le temps de, comment dirais-je, que les tractations se poursuivent, de sorte qu'on puisse trouver donc...
Ah, voilà, ce sont les aléas du direct. La ligne coupée avec Koudougou. On a pu évidemment comprendre l'essentiel de la réflexion de cet auditeur qui estime donc que l'Union africaine, elle a bon dos aujourd'hui de vouloir sanctionner le Burkina Faso si l'armée ne transmet pas le pouvoir le plus rapidement possible. En tout cas, elle a 15 jours pour le faire. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Lomé, et vous aussi, hein, vous n'êtes pas très satisfait de l'attitude de l'Union africaine sur la gestion de la sortie de crise au Burkina Faso.
Absolument, je ne suis pas satisfait du fait que l'Union africaine, la CEDEAO, qui sont censées être des institutions et qui veillent, n'est-ce pas, au bon déroulement donc des affaires africaines, soit rester passive cette réunion-là pour ne venir qu'après que le peuple burkinabé ait pris, n'est-ce pas, son destin en main. Donc cette Union africaine et la CEDEAO auraient été de vraies institutions qu'elles auraient dissuadées, n'est-ce pas, Blaise Compaoré et son équipe, donc de ne pas véritablement aller dans ce sens.
Oui.
Du crépatouage donc de la constitution burkinabé.
Ouais. En tout cas, hier, l'homme fort du Burkina Faso a dit « Nous n'avons pas peur des sanctions. Nous prêtons davantage attention à la stabilité et à la paix pour les habitants du Burkina Faso. Les sanctions ne sont pas vraiment notre souci en ce moment », a déclaré le lieutenant-colonel Zida. En toile de fond, évidemment, donc le délai de 15 jours, l'ultimatum de 15 jours pour rendre le pouvoir aux civils. On me dit que Bruno est là, en région parisienne. Bonjour Bruno.
Bonjour Juan.
Ah bah voilà, on vous entend cette fois-ci. Deux petites minutes, c'est le temps qui nous reste avant la fin de cette émission. Vous réagissez-vous à la vague de protestation que provoque en ce moment au Gabon la sortie du livre en France, du dernier livre de Pierre Péan, intitulé Nouvelles africaines, Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon.
Oui, Juan, je voudrais très rapidement rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit dans ce livre. Le livre est essentiellement consacré sur le Gabon, notamment sur les régimes Bongo, père et fils, où il retrace, entre autres, les itinéraires de pillage des caisses de l'État, tout ce qu'il y a comme manœuvre de vente de pièces détachées, les pièces humaines, bien sûr, j'entends, et tout le réseau de la France-Afrique qui ne cesse de piller le Gabon. Et le livre n'a pas cessé non plus de revenir sur Ali Bongo, notamment sur ses origines.
Sur ses origines. Parce que Pierre Péan dit qu'Ali Bongo serait nigérian, ce que dément depuis plusieurs jours le gouvernement, la présidence gabonaise.
Justement, en fait, le problème, c'est que ce que Pierre Péan révèle dans son livre à travers les origines d'Ali Bongo, ce n'est un secret pour aucun Gabonais. D'ailleurs, à titre de rappel, je voudrais dire qu'il y a un opposant gabonais qui, au sortir des élections présidentielles de 2009, son recours à la Cour constitutionnelle, c'était de demander l'invalidation de l'élection d'Ali Bongo.
Vous dites que c'est excusez-moi Bruno, vous dites que c'est un secret pour personne, c'est vrai, et même la présidence reconnaît que il y a déjà eu un certain nombre de journaux gabonais qui ont publié exactement la même information que Pierre Péan. Mais publier une information ne signifie pas forcément qu'elle est bonne. Ça peut aussi contribuer à la rumeur, c'est en tout cas ce que dit la présidence gabonaise. Je suis désolé, on peut pas aller plus loin parce qu'on rend l'antenne, mais on vous rappellera la semaine prochaine pour prolonger ce débat, et d'autres auditeurs, s'ils le souhaitent évidemment, pourront nous rejoindre pour parler. Merci à tous de votre fidélité. Lundi, on parlera